J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui à notre cours mon collègue Monsieur Robert Vigneault, qui, après avoir été professeur à l'université Laurentienne, enseigne maintenant à l'université Carleton à Ottawa. Monsieur Vigneault est l'auteur de L'univers féminin dans l'œuvre de Charles Péguy, ouvrage pour lequel il s'est vu décerner récemment un prix littéraire de la province de Québec dans la catégorie de l'essai. Je suis très heureuse que vous soyez venue pour parler avec moi de La montagne secrète. Et je voudrais, si vous me permettez, Robert, résumer un peu d'abord ce qui ressortait la dernière fois de la lecture que nous avons déjà faite de La montagne secrète, et en particulier de tous les passages qui exprimaient la théorie artistique de Gabrielle Roy telle qu'elle s'exprime à travers le personnage Pierre Cadoré et à travers ses expériences dans La montagne secrète. Ce qui me semblait ressortir de tout cela, voyez-vous, c'est que c'est d'abord l'extrême difficulté de cette quête de la beauté qui est, en somme, à un certain niveau, le sujet du livre. Et Gabrielle Roy, me semble-t-il, ressent très profondément la possibilité toujours présente du désespoir, de l'échec chez l'artiste qui poursuit sans cesse ce qui toujours a l'air de le fuir. La beauté, on dirait, ne se laisse capter que par instant. Chaque chef-d'œuvre est un miracle, et l'artiste côtoie constamment le risque de l'échec, et c'est en somme aussi ce qui fait sa grandeur. Mais c'est aussi ce qui le livre en puissance, du moins, à l'absurde qui guette tous les hommes, et ce n'est qu'à des moments infiniment rares que Pierre Cadoré, en tant que créateur, réussit, ou se trouve devant une possibilité de réussite. C'est en somme surtout à la fin de sa vie. Comme artiste, il est à ses rares instants de création vainqueur de l'absurde. Comme homme, il ne peut que lutter sans cesse pour n'être pas vaincu par l'absurde, et sa solitude n'est pas sans ressemblance avec la solitude d'un Alexandre Schoenberg. Et quant à la doctrine esthétique, à l'expérience de l'art incarnée par Pierre, nous avons noté la dernière fois qu'elle suit une certaine définition, ou plutôt une certaine série de définitions. En résumé, d'abord, l'artiste ne cherche qu'à imiter la nature afin de rendre mieux cette nature ou les objets qu'il choisit dans sa nature, dans la nature. Mais de plus en plus, il apprend que la forme est, doit être même sacrifice d'une partie de la vie. Que l'émotion est résorbée en quelque sorte dans l'œuvre d'art, ou que l'émotion devient autre chose en s'exprimant, que d'une certaine façon la vie est sacrifiée à l'œuvre d'art pour renaître dans l'œuvre d'art. Alors vous voyez, même dans ma présentation naïve de La montagne secrète la dernière fois, cette première lecture que j'avais faite et qui était non critique, surtout, des doctrines que traverse Pierre Cadoré dans sa carrière, j'avais déjà dit, en somme, à quel point il était difficile de séparer le domaine esthétique du domaine éthique et même du domaine métaphysique. Et je crois, en somme, selon le plan de leçon que vous avez bien voulu me communiquer d'avance, que nous sommes d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Alors, nos deux sujets, nous avons en apparence deux sujets parallèles, n'est-ce pas, qui seraient d'une part la lecture critique de La montagne secrète et d'autre part la présentation critique de l'esthétique de Gabrielle Roy. En réalité, il me semble que le deuxième sujet est forcément contenu dans le premier, et si je dis forcément, c'est parce qu'il y a tant de points de tangence entre l'expérience artistique de l'auteur d'une part et celle de son héros d'autre part. Est-ce que vous aimeriez nous présenter votre plan vous-même?
Je crois alors que, comme vous l'avez indiqué, il est possible de faire plusieurs lectures de l'œuvre. En d'autres mots, il y a plusieurs chemins de lecture pour explorer l'univers d'une œuvre, et de celle-ci en particulier. J'en propose ici quatre, pour être un peu méthodique.
C'est bien pour un professeur.
Et alors, il est possible en effet d'en découvrir d'autres, mais voici ceux que nous pouvons explorer. Nous pourrions entreprendre une lecture formelle ou esthétique de l'œuvre. Deuxièmement, une lecture qui serait foncière, disons, qui porterait davantage sur le fond ou sur les idées. Nous pouvons également en faire une lecture psychocritique. Et quatrièmement, et c'est le point de vue que j'aimerais privilégier au cours de cette rencontre, une lecture existentielle ou métaphysique.
Je crois d'ailleurs que mes étudiants savent que c'est en somme, si j'ai un point de vue, c'est celui-là, c'est la lecture que moi aussi je considère comme très importante. Et surtout parce que nous avons déjà dans tous les romans que nous avons examinés jusqu'ici, vu d'une certaine façon la lutte entre la liberté et la nécessité.
Bon, et de fait, je pense que, au fond, ces chemins de lecture peuvent se recouper à plusieurs égards. Par exemple, pour examiner le premier point de vue.
Alors premièrement, lecture formelle ou esthétique. Vous savez que nos étudiants prennent des notes devant leur télé.
Bon, alors essayons d'être le plus clair possible. Disons qu'ici, pour ma part, je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'avoue une certaine déception.
Oui, elle est générale.
Le style de La Montagne secrète m'apparaît en effet un peu lâche, un peu mou. Il me semble manquer de fermeté, de concret. Même on pourrait éprouver à certains moments la tentation de formuler autrement certaines phrases, mais il faut résister à cette tentation.
Ah, le texte, c'est le texte.
Le texte, c'est le texte. Et alors, tout de même, je pense que il ne faut pas s'arrêter surtout à ces défauts du texte d'une façon négative. Je pense que, d'un autre côté, ces manques peuvent devenir très significatifs. Et je l'avoue tout de suite, je trouve que La Montagne secrète est une œuvre fascinante, en dépit de ces manques du point de vue formel ou technique.
Et en somme, c'est notre hypothèse aujourd'hui.
Justement,
nous n'allons pas critiquer cette œuvre pour ses défauts, d'ailleurs assez manifestes, mais la prendre pour ce qu'elle exprime indirectement de l'auteur.
Oui, parce qu'on peut se demander justement pourquoi il y a ces manques dans l'œuvre, pourquoi ce manque de concret, ce manque d'incarnation, et cela nous amène en fait à poser des problèmes d'ordre psychocritique et surtout, en ce qui nous intéresse, d'ordre métaphysique ou existentiel. Et alors, si je me demande qu'est-ce qui fait que l'œuvre est un peu abstraite, un peu floue, je pourrais répondre d'abord qu'on se trouve plutôt en face d'une vaste allégorie. Plutôt en face d'une vaste allégorie que d'un roman, proprement dit. Comme si le personnage servait de porte-parole des idées de l'auteur.
Est-ce que ça, c'est forcément mauvais? Est-ce que c'est forcément un défaut?
Ça n'est pas du tout mauvais du point de vue d'une lecture foncière, du point de vue d'une lecture qui porterait sur les idées de l'œuvre, parce que ces idées peuvent être valables, et en fait, elles sont valables, elles sont profondes à certains moments, elles sont émouvantes même. Seulement, du point de vue romanesque, là, je pense que l'œuvre accuse un certain manque. On peut se demander qu'est-ce qui exprime ce côté abstrait. Vous avez peut-être remarqué ce phénomène de distanciation.
En effet, oui.
Que l'on remarque dans l'œuvre. C'est-à-dire que il y a toujours entre le héros, entre Pierre Cadoret et le lecteur, il y a toujours l'auteur, donc Gabriel Roy, qui intervient pour formuler à travers Pierre Cadoret certaines idées.
Oui, certains critiques ont beaucoup insisté là-dessus. Vous savez, Bessette, il l'appelle le phénomène du brouillage.
En effet.
Et Robidoux et Renaud l'ont appelé la présence de l'auteur omniscient, n'est-ce pas? Et tous les deux trouvent cela plutôt gênant.
Oui, en effet.
Tous les trois, devraient
en
dire.
Effet. Oui, parce qu'à ce moment-là, les personnages ne sont pas vraiment libres. Ils sont un peu à la remorque de l'auteur constamment. Et ce qui est plus accentué encore dans La Montagne secrète en particulier, c'est que même la distanciation est encore plus accusée du fait que non seulement il y a l'auteur, entre le lecteur et le héros, mais il y a même parfois une sorte de collectivité anonyme. On dit que Pierre a été vu, on l'a vu à tel endroit. Ou encore, il y a ce début, pour ne prendre qu'un exemple, ce début de la deuxième partie, où c'est le personnage d'Orac qui voit de très haut Pierre Cadoret, et donc qui s'interpose lui aussi pour nous introduire le personnage. Donc, toute une série d'écrans, en quelque sorte.
Mais là, je me demande si ça ne sert pas à nous placer, si j'ose dire, dans l'indéfini. Je ne sais pas comment on se place dans l'indéfini, mais comme mythe, il y a dans La Montagne Secrète, n'est-ce pas? Il me semble que ces défauts, sans doute, de présentation, servent et peuvent même devenir des qualités dans la mesure où ils servent à communiquer une ambiance d'indéfini, d'intemporalité.
Oui, en autant qu'on accepte de voir un roman comme précisément une allégorie un peu abstraite, en effet, cette distanciation peut servir. Seulement si on y cherche un roman aussi vivant, aussi incarné que Bonheur d'occasion, c'est à ce moment-là, je pense, qu'on peut décrocher, qu'on peut trouver que ça manque de vie, ça manque de mouvement. Il y a donc ce phénomène de distanciation qui fait que le roman n'est peut-être pas suffisamment vivant. Il y a aussi la désincarnation, je dirais, du personnage. Vous avez souligné dans la dernière leçon, que le personnage est un type de vitalité, représentant une certaine vitalité, mais comme personnage, il n'incarne justement pas cette vitalité. Il y a une sorte d'hiatus.
Oui, j'ai réfléchi de nouveau d'ailleurs cette semaine à cette distinction que j'avais faite entre la vitalité d'un personnage et sa vitalité ou son manque de vitalité en tant que personnage. Et je serais tentée de dire aujourd'hui que dans le cas de Pierre Cadoret, il s'agit de possibilités vitales, mais qui n'ont pas été incarnées dans le personnage en tant que tel. Qui ne se sont pas actualisées, c'est ça.
En effet. Et ensuite, du point de vue formel, j'aimerais attirer l'attention sur un phénomène qui intéresse les lecteurs de La Montagne Secrète, mais en même temps les lecteurs de toute l'œuvre de Gabriel Roy. C'est-à-dire cette oscillation qu'on trouve constamment, du point de vue technique, entre le roman et la nouvelle. Je rappelle, par exemple, que Bonheur d'occasion est un roman, Petite boule d'eau, une nouvelle, Alexandre Chenevert, un roman, Rue des Chambeaux, des nouvelles, La Montagne Secrète, une espèce de roman, et La Route d'Altamont, des nouvelles. Il y a là, du point de vue de la technique romanesque ou de la technique littéraire, une curieuse oscillation et que je trouve très significative.
De quelle manière?
Je veux dire que tout se passe comme si Gabriel Roy hésitait précisément entre la formule du roman et la formule de la nouvelle, qui suppose des prises de position psychologiques et métaphysiques tout à fait différentes. C'est-à-dire que, remarquez que ces nouvelles, dans Rue des Chambeaux, par exemple, ou La Route d'Altamont, ont toujours un point d'appui dans le monde objectif de Gabriel Roy.
Qui est celui de sa vie à elle,
alors, et qui nous présente des personnages qu'elle a réellement connus, ses parents, son père, sa mère, et des lieux qu'elle a réellement connus. Donc, la nouvelle, à ce point de vue-là, je pense, se situe à un niveau plus conscient, plus lucide. C'est-à-dire que l'auteur est moins libre devant ses personnages. C'est pour ça, du reste, qu'il y a des coupures. Dans Rue des Chambeaux, il y a 18 nouvelles. C'est comme si l'auteur intervenait consciemment pour ne pas... pour limiter les conflits possibles entre les personnages. Il y a un contraste évident entre ce type d'expérience littéraire et celle du roman, où alors on décroche complètement de l'univers objectif, des lieux, des personnes connues, pour lancer des personnages en plein univers imaginaire, comme dans Bonheur d'occasion, dans Alexandre Schindler et dans La montagne secrète.
Vous savez qu'en poésie, on fait la distinction dans l'histoire de la poésie entre poésie d'expression directe et poésie d'expression indirecte. Est-ce qu'on pourrait dire que chez Gabriel Roy, il y a les deux formes d'expression, plus directe peut-être dans le cas des nouvelles, et indirecte, mais non moins fascinante, et peut-être plus fascinante à un niveau plus profond dans les romans?
Je pense, et en effet, plus fascinante et plus significative du point de vue de l'expression profonde de Gabriel Roy. Parce que dans le roman, l'auteur assume un risque total. Il n'intervient pas, ou il intervient beaucoup moins pour limiter les personnages ou les conflits possibles. Les personnages sont lâchés, sont libres, et ils vivent leur aventure avec tous les risques de conflits que cela comporte. Et ainsi, les romans sont peut-être plus significatifs que les nouvelles. Parce que dans les nouvelles, il y a toujours l'auteur qui a très bien connu les personnages, les lieux, et qui intervient pour mesurer les conflits, et même pour couper les destins au bon moment.
Oui, mais alors est-ce qu'on pourrait dire que dans certains romans, comme dans celui-ci, le risque n'est pas pris d'une manière totale, et que c'est ce qui explique peut-être cette froideur du roman que vous lui reprochez? Dans Bonheur d'occasion, le risque est total.
Oui, c'est pour cela, du reste, oui, c'est pour cela que j'ai dit que La montagne secrète est peut-être une espèce de roman. C'est-à-dire qu'il y a encore intervention de l'auteur pour exprimer des idées. Mais tout de même, La montagne secrète est, si vous voulez, recoupe à la fois les nouvelles et le roman. Il s'agit, par exemple, dans le cas de La montagne, d'un lieu objectif, une montagne de Longava. Mais en même temps, cette montagne, elle est totalement intériorisée. C'est la montagne secrète, en effet.
Oui, nous sommes déjà sur le chemin de l'art. Oui. Alors, est-ce que nous pourrions parler maintenant du deuxièmement, c'est-à-dire de la lecture foncière, qui porte plutôt sur le fond, ou les idées exprimées par Gabriel Roy dans ce roman. Et nous allons montrer, comme nous avons déjà fait la dernière fois, certains dessins de René Richard, puisque Gabriel Roy s'est beaucoup inspiré des dessins et des peintures de René Richard dans ce roman. Ce qui me frappe dans beaucoup de ses dessins et de ses tableaux, c'est la stylisation, c'est cette recherche de l'essentiel. Et pour moi, Pierre Cadoré, à l'instar d'ailleurs de René Richard, est une sorte de toqué, si vous permettez cette expression familière, de l'essentiel. Il est à la recherche de l'essentiel.
Il est à la recherche, je crois, profondément, au-delà de l'expression artistique, de l'expression de lui-même, de cette espèce de coïncidence entre lui et la nature qu'il peint. C'est cela qu'il cherche d'un bout à l'autre du roman. Et je pense que c'est ce qu'il appelle le vrai du reste. Et
d'ailleurs, à la fin, il trouve que pour vraiment rendre cette nature, il faut plutôt la sacrifier que l'exprimer d'une manière photographique.
Oui. Vous avez remarqué qu'à la fin du roman, il a vraiment l'impression qu'il pourrait peindre sa montagne. Le mot est en italique, d'ailleurs, sa montagne. Parce qu'il croit avoir entrevu à ce moment-là la coïncidence de son être avec l'objet à exprimer. Seulement, comme nous le voyons, c'est tout de même un échec parce qu'il meurt sur le point d'arriver à cette réussite sur le plan de l'art et aussi sur le plan de l'existence. C'est donc un héros tragique.
Oui, il y a toujours ce caractère insaisissable de la beauté.
Oui.
En somme, Gabriel Roy exprime la difficulté d'exprimer la beauté, mais c'est peut-être une façon d'exprimer la difficulté d'être.
Je le crois. Je crois que le conflit qui s'exprime sur le plan artistique est un conflit beaucoup plus profond sur le plan de l'être, justement. Le personnage n'arrive pas à être. Mais du moins, c'est pourquoi je trouve l'œuvre fascinante, du moins, le problème est enfin posé dans La montagne secrète. Il s'agit en effet d'être dans La montagne secrète. Tandis que dans les autres œuvres, on oscille ensemble dans une sorte de va-et-vient constant, et on pose le problème d'une façon qui n'est pas authentique, en quelque sorte. On le pose sur le plan géographique. On se cherche en se déplaçant, en voyageant. Alors que dans la montagne secrète, le héros pratique non plus le va-et-vient des autres personnages, mais il pratique une sorte de plongée en profondeur vers sa montagne, ou si vous voulez, vers le sommet de son être.
Ça a dû devenir très conscient dans La Montagne Secrète, parce que un peu plus tard, dans la quatrième nouvelle de La Route d'Altamont, qui s'appelle La Route d'Altamont, justement, Gabriel Roy le dit que partir, il pourrait le partir en France, ce n'est pas seulement une entreprise une équipée géographique, c'est partir à la recherche de soi-même, pour essayer enfin de coïncider avec soi-même.
En effet.
Alors là, la leçon qu'elle a apprise en écrivant La Montagne Secrète a porté dans La Route d'Altamont.
Et je pense que le lecteur de La Montagne sent constamment que la quête de Pierre Cadoret est beaucoup plus profonde que celle qui est suggérée. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement et ça n'est pas surtout une quête sur le plan artistique.
Ce n'est pas en tout cas un apprentissage technique.
Mais c'est une recherche de soi.
Oui, il fait tout de même un apprentissage technique, n'est-ce pas, justement, en partant de cette conception plutôt photographique du dessin, n'est-ce pas, jusqu'à l'apprentissage final de la transposition. Il s'agit aussi de technique.
Mais le but final de cet apprentissage, c'est d'arriver à s'exprimer lui-même, c'est-à-dire à coïncider avec son être profond. Remarquez qu'il est toujours frappé par cette technique du portrait, par exemple. Rembrandt faisant son propre portrait, donc se cherchant. Et lui-même, à la veille de mourir, fera son
autoportrait. Qui est une sorte de révélation finale,
oui.
En somme.
Et alors, mais il sera quand même représenté avec ce regard extrêmement inquiet de l'être qui se cherche encore. Et ce n'est que sur le point de mourir qu'il entreverra d'une façon très, très, très imprécise encore, peut-être, mais et non exprimée, la montagne qui serait la parfaite expression de lui-même. Et d'une façon tragique, il meurt sur le point de
la faire sienne,
de la faire sienne, oui. De l'exprimer, de la peindre.
Mais alors, cet échec, Robert, est-ce qu'il n'a pas des origines psychologiques profondes, et est-ce que pour l'expliquer, nous ne devrions pas aborder maintenant notre troisième nom, c'est-à-dire la lecture psychocritique de l'œuvre?
Oui, en effet, je pense que cette lecture psychocritique, qui est assez mal vue dans certains milieux, est quand même très utile, parfois nécessaire, pour comprendre certaines obscurités. Remarquez que je ne veux pas aujourd'hui privilégier cette lecture. Je pense qu'elle ne va peut-être
mais
pas...
Mais il faut l'accepter parmi
nous. Oui, je pense qu'elle est très utile et je pense qu'elle est parfois nécessaire. Parce que, je vous donne un exemple, on sent très bien que la montagne dans ce roman, elle est beaucoup plus qu'une belle montagne, qu'une œuvre d'art. On sent qu'elle est une personne et qu'elle représente une sorte de, ce que Mouron appellerait une sorte de métaphore obsédante dans le roman.
Dites-moi, mais alors, est-ce que la montagne n'est pas le personnage central au lieu de Pierre Cadoret? Ou est-ce qu'il n'y a pas deux personnages?
Oui, en effet.
Plutôt qu'un,
oui. Je crois que le sujet du roman, c'est la rencontre de Pierre Cadoret et de la montagne, et en somme, la coïncidence des deux, je pense. Et alors, la lecture psychocritique nous est utile, en effet, parce qu'elle nous révèle que cette montagne est investie, ça n'est pas purement une montagne, c'est un peu la mer de l'auteur.
Ah, oui.
Je crois que M. Bessette a souligné ce point de vue d'une façon très pertinente.
Est-ce que vous permettez, alors que je donne à nos étudiants la référence précise, cet article se trouve dans Livres et auteurs canadiens de l'année 1966, Et il commence à la page 19. Et le titre exact, c'est « La route d'Altamont, clé de la montagne secrète de Gabriel Roy ». Dans cet article, mais vous allez nous expliquer justement vous-même comment M. Bessette établit la relation entre la montagne secrète et la route d'Altamont.
Oui, je pense qu'il est difficile de le faire si brièvement, mais M. Bessette a montré, avec toutes sortes d'exemples à l'appui et d'une façon tout à fait irréfutable, je crois, que des liens très nets peuvent être établis entre la nouvelle intitulée « La route d'Altamont » et « La montagne secrète ». C'est-à-dire qu'il nous montre comment l'univers imaginaire de la mer dans la route d'Altamont, c'est en effet ce pays montagneux, ce pays de petites collines québécoises, et que d'ailleurs Gabriel Roy transposera dans la montagne secrète, mais alors d'une façon magnifique, en peignant cette resplendissante, cette vaste montagne. Donc c'est un peu une sorte de valorisation inconsciente de sa mère qu'elle poursuit dans toute son œuvre du reste.
Et pour la mère, c'est aussi lié à un âge d'or, il me semble, puisque c'est déjà dans le domaine du souvenir pour elle dans le passé québécois.
En effet. Et alors, c'est pour cela, je pense, que la psychocritique peut être particulièrement utile parce que les passages les plus réussis, en effet, sur le plan littéraire dans La montagne secrète, sont ceux qui expriment le lien profond, le lien personnel que le héros entretient avec sa montagne ou que Gabriel Roy entretient avec sa mère. Les passages, les chapitres qui traitent de la rencontre de la montagne, ensuite de la rencontre ou la chasse du caribou. Ces passages sont mieux réussis, je crois, sur le plan littéraire que les autres. Et ainsi, vous voyez que la psychocritique a son utilité sur ce plan.
Certainement. Mais vous parlez du caribou. Est-ce que vous pourriez en parler davantage?
Oui, alors
il est
là...
peut-être, pour moi, en tout cas, il est, selon la théorie de M. Bessette, n'est-ce pas, il est moins convaincu, c'est-à-dire... la théorie de M. Bessette, telle que je la vois personnellement, le caribou est beaucoup moins convaincant que la montagne.
Oui, mais je pense que Bessette a voulu souligner, et a souligné effectivement, un point de vue psychocritique extrêmement important, c'est-à-dire, je pense, l'espèce de sentiment de culpabilité, selon lui, que Gabriel Roy entretient à l'égard de sa mère. C'est-à-dire que suivant ses analyses, cette immolation du caribou serait une sorte de réplique imaginaire de la peine infligée à la mère par l'auteur. On voit dans la route d'Altamont du reste que Gabriel Roy se reproche d'avoir quitté sa mère. Mais je n'aime pas insister tellement sur ces aspects malgré tout, parce que surtout quand il s'agit d'auteurs vivants, ils sont éclairants, ils sont significatifs, mais
ils sont réducteurs.
Ils risquent peut-être, en effet, de faire évacuer le côté positif de l'œuvre pour la réduire à un cas. Et s'ils sont nécessaires et éclairants,
c'est
pense que...
C'est d'ailleurs le danger de toute psychocritique.
Oui, je pense qu'il faut les dépasser, en effet. Parce que je ne pense pas qu'il soit finalement très utile très positif de réduire une œuvre achevée à
Une fixation infantile.
C'est éclairant, comme je le disais, je pense, pour éclairer certaines obscurités, certaines incohérences, certaines ambivalences, certaines obsessions. Mais je pense qu'il faut ensuite dépasser cela. Et c'est ce que nous pouvons peut-être essayer de faire en abordant une lecture que nous avons appelée existentielle ou métaphysique, si vous voulez. En somme,
alors, quatrièmement, lecture existentielle.
Oui. En somme, je serais porté à dire que l'œuvre exprime le projet d'être de Gabriel Roy, de l'auteur. Et c'est pour cela que je trouve la montagne tellement fascinante. C'est que, en dépit de ses manques, c'est une œuvre qui répond à la question qui est posée dans toute l'œuvre. Je pars d'une réponse donnée par Gabriel Auroi à M. Bessette dans l'interview publiée dans Littérature en ébullition. Gabriel Auroi affirme ceci: « Je ne me suis pas souvent senti chez moi au monde. » Il me semble, dans cette perspective, que l'œuvre de Gabriel Auroi est une expression saisissante de cette non-appartenance, de cette aliénation. Et c'est dans cette perspective que je vois, dans La montagne secrète, une réponse apportée à cette question de la non-appartenance ou de l'aliénation posée dans toute l'œuvre.
Et cette réponse serait valable sur tous les plans, et pour l'individu et pour le devenir social aussi.
Je le pense, oui. Je le pense. Je pense que le malaise de l'aliénation, au fond, met en branle chez Gabriel Auroi toute l'œuvre, les romans, les nouvelles, et que La montagne secrète est l'œuvre qui révèle comment il faudrait surmonter l'aliénation. Pour le dire de façon très schématique, que La montagne secrète nous dit ce va-et-vient. Dans toute l'œuvre. Ce va-et-vient ne résout rien.
Le va-et-vient géographique,
vous
voulez dire,
oui.
Entre la campagne et la ville, le Grand Nord et les concentrations urbaines,
oui.
Ce genre de choses.
Oui, alors cela, par exemple...
Et le Manitoba et le Québec.
Cela traduit un malaise, une recherche d'identité. Et ce va-et-vient ne résout rien. La montagne secrète nous apprend que pour s'identifier, pour se posséder soi-même, il faut une bonne foi accepter non plus le va-et-vient, mais une sorte de trajectoire rectiligne qui mène quelque part. Et ici, il s'agit en effet d'une plongée au centre de soi-même.
Est-ce que c'est la fameuse ligne droite de Brochu?
Je ne dirais pas parce que cette trajectoire dont parle Brochu, elle est perçue beaucoup plus comme une évasion. Dans le cas des personnages masculins de Bonheur d'occasion, c'est plutôt l'évasion, la ligne droite. Ici,
alors c'est une ligne droite qui va jusqu'à l'infini, tandis qu'ici,
oui.
Elle s'arrête à la montagne secrète, c'est ça?
Oui, et ensuite c'est une ligne droite, si vous voulez, qui aboutit à quelque chose de précis, à une solution. Ça n'est pas seulement une évasion. En d'autres mots, ici, on pose vraiment le problème. On découvre que la recherche sur le plan du va-et-vient est inutile, qu'il faut vraiment plonger en soi-même, qu'il faut s'interroger soi-même, coïncider avec soi-même. Et dans cette perspective, la montagne, c'est à la fois, si vous voulez, un sommet géographique, mais c'est pour moi aussi le sommet de l'âme. Et la découverte de la montagne, c'est la découverte de soi. La découverte de son être, que l'on consommera en réussissant à peindre la montagne. Et c'est ce que cherche le héros à travers toute l'œuvre, conquérir cet être en l'exprimant. Et de façon assez tragique, on s'aperçoit que ce n'est que sur le point de mourir, qu'il entrevoit comment il faudrait faire et qu'il commence à esquisser cette montagne qui l'exprime tout entière, qui serait son être. Vous voyez, c'est pour cela que je dis que la montagne nous plonge dans des problèmes d'être. Au fond...
Est-ce que la montagne, c'est aussi le sacré en même temps? Est-ce que l'artiste se trouve devant le sacré?
Oui, je pense, parce que l'artiste, l'auteur d'abord, nous a plongé dans un espace mythique, le Grand Nord. Il fait vivre son héros dans une ville mythique, au fond, Paris. Ça n'est pas Saint-Boniface, mais dans le cas de la montagne secrète, c'est vraiment une ville un peu mythique, un peu comme Rome.
Vous savez, ce qui me frappe, c'est que dans ce Paris que vous appelez mythique, justement, Pierre Cadoret éprouve le besoin de recréer une chambre avec un poêle dedans qui reproduit en somme la cabane du Grand Nord.
Oui.
Il transporte sa coquille avec lui.
Oui.
Dans tous les espaces géographiques.
Oui, parce qu'au fond, il transporte sa recherche avec lui. C'est lui qu'il cherche dans le Grand Nord, dans Paris. Et il sent bien qu'il ne sera un artiste et au fond un homme que le jour où il aura vraiment coïncidé avec lui-même. Et ceci est représenté sur le plan imaginaire par cette conquête désirée de la montagne.
Quand vous dites coïncider avec lui-même, ça m'a l'air d'exprimer quelque chose de presque humainement impossible, de paradisiaque qui justement ne peut pas arriver dans le concret. Il me semble que Gabriel Roy a toujours une certaine difficulté à s'arranger avec le concret.
Oui, parce que les héros de Gabriel Roy et Pierre Cadoret, Schoenwer, sont des êtres divisés et qui cherchent, remarquez que Schoenwer fait la même chose, cherche en quelque sorte à retrouver l'unité de son être, son identité personnelle. Et remarquez que Schoenwer fait un peu la même aventure que Pierre Cadoret dans sa fameuse équipée au lac vert. Il a lui aussi l'impression que à ce moment-là, qu'il se possède vraiment, qu'il a rejoint le sommet de son âme, mais de façon tout à fait analogue à celle de Pierre Cadoret, au moment où il éprouve cette euphorie, il doit revenir à Montréal et y mourir. De même que Pierre Cadoret, au moment où il sent qu'il a vraiment exprimé sa vérité, sa montagne, meurt aussi.
Et ceci, alors, est-ce que ce serait un échec, une prédiction d'échec pour tous les cas?
Ben, ici, on a, je pense, on a enfin le problème bien posé dans l'œuvre. Il n'est pas éludé par le va-et-vient. Il est enfin posé sur le véritable plan. Seulement, tout se passe comme si le héros et l'auteur n'étaient pas prêts encore de trouver la solution. Et je pense que ça n'est pas un hasard si, justement, ensuite, dans La route d'Altamont, on repart vers les origines pour, en quelque sorte, poser de nouveau la question. C'est que Pierre Cadoret est tout de même mort au moment de se réaliser, et la question reste donc entière. Qui retrouvera la montagne? C'est bien la question finale.
Oui, dans cette perspective, alors la montagne secrète est bien un mythe, parce qu'un mythe, c'est bien une dramatisation de la conscience humaine dans une question qu'elle se pose, n'est-ce pas? Et il y a l'éternel retour des mythes. Et dans un certain sens, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, Gabriel Roy reprend cette même interrogation dans la quatrième nouvelle de La route d'Altamont.
En effet.
Puisque là, elle part, elle, à la, sous sa forme à elle, n'est-ce pas, à la recherche d'elle-même,
oui,
pour devenir artiste.
Et c'est un mythe très, très significatif. Et c'est pour cela, encore une fois, que l'œuvre est tellement importante. Et malgré les manques réels de l'œuvre, parce que enfin elle pose une question métaphysique, elle apporte, je veux dire, une réponse métaphysique à la question posée, réponse qui n'est pas encore effectivement vécue dans le roman, mais du moins le problème est bien posé, et c'est déjà un pas. Si vous voulez, nous pouvons même revenir peut-être plus en détail sur cette question,
oui,
de l'aliénation,
bien, en effet, oui.
Cette question de l'aliénation qui est posée dans toute l'œuvre et qui reçoit une certaine réponse,
oui,
dans La montagne secrète. Vous avez remarqué par exemple que, nous l'avons souligné, comment l'œuvre entière oscille entre deux genres littéraires. Ceci exprime déjà un certain malaise chez l'auteur qui hésite peut-être à prendre le risque total de l'aventure romanesque, parce que à ce moment-là, les problèmes réels sont posés. Et ceci...
Alors, est-ce que l'allégorie est une façon d'échapper aux vrais problèmes de la création romanesque?
Peut-être, en effet, dans la mesure où l'auteur, encore
là... Ce n'est pas tout à fait le roman, ce ne sont pas tout à fait des
l'auteur
personnages de chair et de sang.
A un droit d'intervention, encore là, un droit de regard sur son personnage. Et il lui permet pas tellement souvent de s'exprimer lui-même, sauf dans les passages de la rencontre de la montagne, par exemple, et d'autres. Donc il y a cette oscillation entre deux genres littéraires. Il y a une oscillation entre l'univers romanesque et le monde objectif, les personnages connus, les lieux connus, et l'univers imaginaire des romans. Remarquez que à ce niveau, La Montagne Secrète apporte une réponse parce que la montagne est à la fois un lieu objectif, mais c'est une montagne intériorisée. Donc, elle est aussi bien un sommet géographique qu'un sommet de l'âme. Et donc, il y a une sorte de conciliation entre l'objectif et l'intérieur ici. Ensuite, on peut voir l'oscillation dans l'œuvre se produire au niveau du décor romanesque, au niveau du temps. Par exemple, vous avez sûrement noté l'oscillation ville-campagne dans l'œuvre. Encore là, Montagne Secrète apporte une certaine résolution parce qu'il s'agit à la fois d'une campagne mythique, le Grand Nord.
Tout ce qu'il y a de plus solitaire.
Oui. Et d'une ville mythique, Paris.
C'est aussi, en somme, tout ce qu'il y a de plus solitaire.
Oui. Alors,
donc, ni le Grand Nord, ni Paris, qui sont deux extrêmes, en somme, n'apportent de solution au problème humain.
Oui, mais du moins, le problème est bien posé. Les deux termes géographiques, si vous voulez, la ville et la campagne, sont réunis dans cette œuvre. L'oscillation se fait aussi au point de vue du temps. On passe dans les romans et dans les nouvelles du présent au passé, le présent de Montréal, par exemple, dans Bonheur d'occasion, le passé des origines, le pays de l'enfance, dans Rue des Chambeaux. Dans La Montagne Secrète, c'est comme si l'auteur se disait, ce va-et-vient temporel non plus ne résout rien. Il faut plonger dans une sorte d'origine intemporelle, une sorte d'instant éternel pour l'instant de l'âme.
Maintenant, que pourriez-vous dire en conclusion sur la valeur de ce roman, pour vous, personnellement?
Pour moi, La Montagne Secrète nous offre la réponse à la question posée par toute l'œuvre de Gabriel Auroi. C'est qu'en somme, il s'agit pour l'homme d'être vraiment lui-même, et qu'à ce moment-là, peu importe où l'on est, qu'on soit à Montréal, qu'on soit à Saint-Boniface,
on peut
être partout, on peut vivre partout parce qu'on est.
C'est vrai. Alors je voudrais encore vous remercier d'être venu et je dis aux étudiants à la prochaine fois.